Alors, donc on a une vingtaine de minutes de discussion. Sachant que donc dans le déroulement, enfin Stéphane me contredira si je me trompe, mais sachant que dans le déroulement, en fait, on a cet après-midi des groupes à partir des, enfin, qui devraient utiliser ce qu'on a entendu aussi ce matin et essayer donc de dire, de construire, de proposer finalement des formes de, alors, de clivage, de thématiques de débat qui pourraient être portées par le christianisme social dans l'avenir. Je dis, en reprenant un peu ce qu'a dit Jean-Pierre, finalement, il nous a dit voilà les clivages anciens, voilà les clivages qu'on nous propose aujourd'hui, mais finalement, la troisième partie, d'une certaine manière, qui est notre tâche, ça serait de dire quels sont les clivages qu'on veut porter. Il y a ceux qui nous sont proposés, il y a ceux qu'on veut porter. Jean Bobéreau nous a dit la laïcité pourrait être ou sera un enjeu...
Un clivage
2012. Mais finalement, la question, ça va être comment poser ce clivage, enfin, comment poser le débat, enfin, c'était, d'une certaine manière, il a fait des propositions, mais comment poser ce débat sur la laïcité d'une autre manière que finalement Marine Le Pen le pose ou Elisabeth Badinter le pose. Il a donné des indications, mais finalement... Et Jean-Paul, d'une certaine manière aussi, nous dit... Comment faire un pas de côté? Mais faire un pas de côté, c'est pas simplement se tenir à côté, c'est dire autre chose ou signifier autre chose que ce qui nous est proposé aujourd'hui dans les débats politiques et théologiques.
Je dirais que d'une autre manière, ça rejoint ce que j'ai dit sur la gymnastique intellectuelle. C'est-à-dire comment être effectivement à la fois engagé, mais engagé autrement.
En fait, moi j'ai dit, Jean-Paul, il y a une manière de faire un pas de côté, c'est de se mettre en cercle, en silence. Donc ce qui est une autre manière de faire un pas de côté et de se tenir. Mais... Qui rejoint d'ailleurs peut-être une question spirituelle. Mais bon, ce que je vous propose... Alors peut-être, Jean a commencé. Est-ce que toi, tu veux... Est-ce que vous voulez juste réagir très brièvement à ce qu'ont dit les autres ou est-ce qu'on... On passe la... Allez, on va plutôt passer la parole à la salle. Donc, demande de précision, d'explication et puis éventuellement avancer dans le truc. Jean-Christophe.
Oui. Moi, je voulais réagir sur...
C'est qui
Jean-Christophe Muller.
Dans le Gard. Je voulais réagir à ce que disait Jean-Paul Nunes, parce qu'au fond, la problématique de la résistance spirituelle et les textes comme les thèses de Bobéreau est un élément fondamental, mais qui en même temps demande de discussion sur leur usage. Parce que je crois que, comme tu l'as bien dit, qu'il y a une source à laquelle on peut puiser, y compris dans une actualisation qui vaut du sens, mais quelle actualisation, quels enjeux? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut passer notre temps à tenter d'actualiser par une réactivation permanente ce qui était de la réaction à un temps exceptionnel? Et est-ce que notre temps est aussi exceptionnel? Je veux dire par là que, est-ce qu'on est dans une situation à appeler des nouvelles résistances ou au contraire, à passer dans la dimension positive? Cette résistance, c'était un nom au nom d'une conception de la justice et de la paix. Or, il faut les construire. Le danger qu'on peut avoir, c'est que par les alternatives fausses dont tu parlais, on ne soit plus en situation d'être constructeur de justice et de paix. Mais je préfère la réflexion sur ces moments sources comme une logique de constructeur plutôt que la référence à une résistance spirituelle qui, à un moment, nous ferait croire que nous serions dans un temps d'exception, ce que je ne crois pas.
Alors, est-ce que c'est un peu sur la même... Oui. D'accord. Philippe Kabongo, Baya, Robinson.
Je suis tout à fait à l'opposé de ce que je viens d'entendre. Premièrement parce que j'ai lu ce texte en arrivant en France, Église de pouvoir, 70. Et pour un jeune homme qui arrivait du Congo à l'époque, du Zaïre à l'époque, c'était vraiment une bombe. Je sortais presque d'une espèce de caverne. Et j'ai vécu une castration de la société française par une certaine forme de pensée unique qui a été nourrie par une forme de cynisme et une manière de neutraliser la culture, enfin l'imaginaire, par la croyance comme ça que tout engagement, tout intérêt pour quelque chose qui a du sens, c'est de la divagation ou c'est de la folie, ça n'intéressait personne. Et aujourd'hui, à la différence de ce que tu dis, le petit texte de Stéphane Hessel, juste ce petit texte, qui n'a pas beaucoup de choses d'exceptionnel, ce qu'il a soulevé en France et en dehors de la France est significatif justement d'un certain temps exceptionnel. Je crois qu'on est dans un temps exceptionnel. Naturellement, il ne s'agit pas de prendre ce texte et de les appliquer d'une manière mécanique à ce temps. Mais il y a un sens dans ce qui a été vécu là qui, personnellement, aujourd'hui, m'intéresse, me nourrit.
Je me permettrai juste de poser... Il y a quelqu'un qui voulait...
Oui.
D'accord. Enfin, je voulais juste me retourner vers Jean Bobéro, parce qu'en fait, quand on dit... alors, est-ce que le temps est exceptionnel ou est-ce qu'il n'est pas exceptionnel, en fait? La question que vous posez, moi, je trouve que c'est une... Enfin, finalement, c'est une bonne question. Moi, je me dis de temps en temps, il m'a semblé que Jean avait dit à un moment, il y a une histoire autour de totalitarisme mou, enfin, je ne sais plus ce que c'était. Et finalement, il était exceptionnellement totalitaire et exceptionnellement mou, ce qui nous rend difficile, justement, de trouver quels sont les...
Enfin, moi,
alors, je ne sais pas. Bon, alors,
il y a un livre...
Alors, on va répondre à ça.
Ouais, enfin, ouais. Bon, alors, tout temps est un peu exceptionnel pour ceux qui le vivent. Hein, et l'important, c'est que c'est notre temps et qu'on a à se battre dans ce temps aujourd'hui. Bon, savoir s'il est... Bon, mais à ce niveau, là, il y a un livre qui je trouve très intéressant, qui est de Raphaël Simonet, qui s'appelle « Le monstre doux », et qui montre bien les caractéristiques paradoxales de ce qu'on pourrait appeler un totalitarisme démocratique. Hein. C'est-à-dire les gens ne sont pas mis en prison, les gens ne sont pas... etc. Mais, justement, on fait en sorte que... ça soit une prison feutrée, quoi. C'est-à-dire qu'on leur impose une assignation à résidence au niveau de la pensée, hein, et que c'est agréable. C'est agréable de regarder les séries télé. Bon, moi, j'en regarde volontiers, mais le problème, c'est que ça peut finir par être votre univers. Hein, et que si, justement, on n'est plus capable de faire un pas de côté ou d'avoir la gymnastique intellectuelle que j'indiquais, eh bien, c'est... Moi, je parle de douceur totalitaire, lui, il parle de monstre doux, mais on se retrouve dans cette idée qu'on a une nouvelle forme paradoxale de totalitarisme dit démocratique, ou qui se croit démocratique. Bon, pour en finir, par exemple, ça a été...
La question de Müller, c'était, est-ce qu'il faut résister ou construire? Moi, il me semble que c'est les deux en un seul, mais...
Oui, bien sûr. Mais, par exemple, pour donner un exemple... moi, je regrette, ça peut paraître du marxisme primaire, mais je ne peux pas enlever le fait qu'Elisabeth Badinter est la plus grosse actionnaire de Publicis. Et sur sa force de frappe et sur sa pensée, je crois que ce sont des déterminations sociales fortes. Fortes.
Jean-Paul, tu voulais dire quelque chose et puis...
Je vais pas, donc je partage complètement ça. Pour moi, on est dans un... Alors, effectivement, peut-être parce qu'on le vit, mais on est dans une période exceptionnelle à plein d'égards. On a actuellement une civilisation qui se tord sur elle-même. Et il y a des tas de... Alors, ça doit être enthousiasmant. Ça ne doit pas être absolument accablant. Et effectivement, moi, je crois que... on est dans un temps... Oui, quand on dit qu'il faut élaborer une résistance spirituelle, ça veut dire quoi? Il faut amener aux gens à penser. Mais même ceux parfois dont on s'occupe, les victimes dont on s'occupe contre elles-mêmes. Moi, je travaille avec les migrants au quotidien. On ne réfléchit pas avec les migrants. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Les trois quarts du temps, ils veulent un monde que nous, on ne veut plus. Ils veulent un monde le plus sordide qui soit, dans la logique libérale. Et c'est quand même cela qu'on défend au quotidien. On veut qu'ils aient des papiers, etc., etc. Je crois qu'à un moment donné, il nous faut amener. On le voit sur le voile. On est dans la double pensée orwellienne. On est effectivement dans un totalitarisme le plus soft, mais qui en même temps nous amène à être passifs. On accepte la guerre. Il n'y a aucune guerre qu'on doit accepter. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Et je crois qu'effectivement, voilà, la guerre en Libye, très bien. Voilà. On n'est pas bien. Il faut absolument mettre du sens dans tout ça et réveiller. C'est évident.
C'est normal que les victimes veuillent du sordide, c'est-à-dire qu'ils veulent la douceur du monstre doux. Ils ont
exactement,
que le monstre.
Exactement.
Ils ont que le monstre. Alors ils veulent au moins la douceur. Bon, mais effectivement, il faut pas être dupe de ça. Il faut pas être dupe de ça. En même temps, ils ont bien le droit d'avoir aussi la douceur, mais en même temps, il faut pas que effectivement que le monstre disparaisse.
Alors, Madame au fond, Madame, il paraît qu'il faut jamais dire Mademoiselle. Donc, Madame à droite, et après. Non, mais c'est bon. Non. Mais en plus, alors, madame.
La fenne.
Qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie? Oh, ça fait un...
La fenne.
Assassiné. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut comprendre que ces questions relatives aux préoccupations qu'une présence religieuse active puisse être une condition qui fait que les droits de femmes et les droits des minorités sexuelles en particulier, ou tout simplement notre façon de vivre à l'occidental, sont mis en discussion, la prendre au sérieux, cette problématique-là. La présence visible, plus visible, de personnes de religion musulmane est aussi une question. C'est évident qu'une sœur catholique est moins exotique dans la rue qu'une jeune fille voilée. Donc cette présence nouvelle, entre guillemets, parce que c'est plus même un certain temps, je pense qu'il y a deux questions auxquelles nous devons répondre. La première, c'est effectivement redéfinir ce qu'est une présence, ce qu'est un espace public en démocratie, parce que j'ai l'impression que quand on parle d'espace public, on pense à un espace qui n'est pas, aujourd'hui dans le discours français, c'est un espace qui n'est pas démocratique. C'est quelque façon un espace étatique. C'est un espace administratif qu'on veut neutre, qu'on veut non conflictuel, où la première préoccupation, c'est celle de garantir l'ordre public. Donc c'est cette question, je pense, qu'on doit répondre si on veut avoir une parole publique en tant que chrétien sociaux. Et la deuxième question que je pense qu'il ne faut pas éviter, c'est celui du droit reconnu aux entreprises des tendances, aux institutions religieuses et aux partis politiques de se dégager du droit commun. Ce n'est pour moi pas tout à fait... Ça ne va pour moi, personnellement, pour moi, ça ne va pas de soi qu'un dirigeant de l'UMP qui adhère au Parti communiste soit licencié. C'est C'est une question qu'il faut qu'on se pose. En quelle mesure les institutions religieuses ont le droit de fonctionner sous d'autres lois, sous d'autres principes qui sont du droit commun?
Alors, on vous donne la parole parce que sinon...
J'en ai pas pour longtemps.
Oui, attends.
Je m'appelle Eloïse, je vis à Paris. Je voulais revenir sur l'Église des pouvoirs. Moi, ce que j'avais compris du livre d'Arnaud Bobéraud, c'est que y avait eu une réaction extrêmement virulente de l'Église. Donc, je suis un peu étonnée de la parole d'un témoin moi, ce que j'ai entendu là, c'est qu'il y avait une ruche au sein de l'Église, alors que bon, ce que j'avais compris, c'est plutôt qu'il y avait une réaction...
il y a eu, bien sûr.
Anti, voilà. Et du coup, je voudrais... je pense que l'Église, aujourd'hui, a une parole. Il n'y a pas un attentisme. L'attentisme, il peut peut-être venir des chrétiens sociaux. Il n'y a pas un attentisme de l'Église. Aujourd'hui, l'Église a une parole, l'Église chrétienne a une parole réactionnaire qu'à mon avis, il faut combattre. Et c'est ça le clivage. Il y a un clivage, effectivement, au sein de l'Église, entre des personnes qui auraient envie de porter une autre parole et une Église qui... alors peut-être que je vous en avez dans la main, hein, mais ce que je vois, c'est une Église qui... Je parle du christianisme en général et particulièrement bon, de l'Église catholique aussi. Une Église qui, sur la question du genre, hein, prend position pour que ça ne fasse pas partie des programmes de biologie. Une Église qui, en règle générale, a plutôt abandonné ses mouvements et ses œuvres. Je pense à la CIMADE, où on dit beaucoup, la CIMADE, où les éclaireurs unionistes ont abandonné l'Église. Et je pense que c'est aussi le contraire, et que depuis, je prends l'exemple des éclaireurs unionistes, puisque je travaille dessus et je suis unioniste, depuis qu'ils sont revenus vers l'Église, ils sont devenus beaucoup plus réactionnaires en termes de principes éducatifs, notamment. Et c'est eux qui ont fait la démarche de revenir vers l'Église et non au contraire. Donc pour moi, le clivage, il est plus fort que ça. Il est entre conservateurs et plus pour libertaires, ou en tout cas, et que l'idée, elle est encore le clivage qui existe, il est entre exploitants et exploités, il est entre dominants et dominés, y compris au sein de l'Église.
Alors. Donc on a eu... Attends, Jacques, parce que sinon, là, on va complètement...
On peut pas répondre, quand même.
Oui, donc voilà. Donc je pense que ce serait bien que Jean réponde à madame.
Rapidement.
Peut-être on donne une forme, disons, d'information et de réaction à ce qui vient d'être dit aussi. Mais donc, sur... Parce que moi, sur l'Église...
Oui. Bon, d'abord, alors... Bon, la difficulté du truc, c'est que là, moi, j'avais répondu à une question de Thanas sur est-ce que l'Église est considérée comme une institution en France, j'avais répondu en donnant la législation. Ça ne veut pas dire que je cautionne cette législation, mais c'est la législation actuelle, il faut le savoir. Et effectivement, il y a matière à débat, il y a du pour et il y a du contre, il y a matière à débat, mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là, ça serait trop long. Bon. Ce que je voudrais dire plus au fond, c'est que... OK que Elisabeth Badinter aussi parle comme femme. Moi, je ne l'englobe pas par son truc, par publiciste. Je dis que ça compte. C'est une dimension qu'on ne peut pas évacuer et parce que ça serait mal poli d'en parler. Bon. Mais moi, je travaille avec des féministes musulmanes qui défendent les droits des homosexuels, qui défendent le droit à l'avortement, qui défendent etc. Et aucun journal ne les publiera. Bon. Aucun journal ne publiera leur avis. La force de frappe d'Elisabeth Badinter face à ces femmes-là, elle est... Et c'est exactement comme un sans-abri et un milliardaire. Hein, bon. Donc il y a des sans-abri aussi au niveau symbolique, au niveau culturel, au niveau de la liberté d'expression. Bon. Et ça, il y a à travailler cet aspect-là. Bon. Et ces femmes féministes musulmanes qui se battent aussi contre la séparation hommes et femmes à la mosquée, etc. Bon. Il y en a qui portent le foulard, il y en a d'autres qui ne portent pas le foulard, et elles travaillent ensemble. Bon. Et c'est ça que je veux dire. Je veux relativiser cette différence qui me semble être un point sur lequel on se focalise aujourd'hui, parce que finalement, on veut... veut une sociabilité uniforme. Et là où je vous rejoins tout à fait, c'est sur la réflexion d'un espace public en démocratie. Ça, c'est certainement une des réflexions primordiales aujourd'hui. Et justement, cet espace public en démocratie, quelle diversité, non seulement il accepte, mais il considère comme enrichissante. Et ça, c'est une des questions fondamentales, justement, aujourd'hui, dans des sociétés qui, de toute façon, sont et seront de plus en plus pluriculturelles. Donc, c'est une des questions centrales du débat, je pense.
Alors, sur
Église et pouvoir, moi, je peux dire, puisque j'ai effectivement écrit un bouquin, là, Le pouvoir de contester. Bon, c'est vrai que ça a créé des tensions beaucoup dans l'Église. Bon, je pense aussi, mais là aussi, il faudrait faire tout un débat sur Église et pouvoir même. Je pense aussi que le texte, moi, je l'avais attaqué à l'époque, le texte, comme n'étant pas athée à gauche et d'une gauche... plus rigide, disons, qu'une gauche dialoguante, etc. Bon, il y avait il y a eu une prise de pouvoir dans la commission de Casalis, et cette prise de pouvoir, elle a fait problème parce que, du coup, Église et pouvoir n'a pas été un texte de débat, sur les meilleurs moyens de les exploiter, etc., etc. Et ça a été quand même un texte qui était, pour moi, un texte assez ambigu, disons.
C'est pour ça que j'ai renoncé à le présenter. Oui, je me suis dit, je vous présente autre chose.
Oui. Mais ceci dit, à partir du moment où ces clivages ne sont pas moralistes, il ne faudrait pas prendre les clivages que vous avez donnés comme moralistes. Mais à partir de ça, c'est effectivement des questions qui nous sont posées aujourd'hui. C'est des questions. Là, je suis tout à fait d'accord.
Olivier, pardon, je reviendrai.
Il me semble qu'une des choses qui nous rendent le travail difficile et qui contribue à cette anesthésie dont j'ai parlé. Cet envoûtement, mais je pense que c'est aussi chez nous-mêmes encore plus fort peut-être, et c'est le fait qu'on est pris encore dans des problématiques qui nous affaiblissent profondément. Je pense notamment ce que tu viens de dire là, sur le fait que cette prise de Casalis, cette emprise de Casalis sur le débat dans l'Église des pouvoirs, c'est un bon exemple. Je pense que nous avons peu à peu mesuré à quel point pour le dire très rapidement, la pensée barthienne est elle-même contemporaine d'une pensée totalitaire, d'une certaine manière. Le mot totalitaire était d'ailleurs un mot, il n'y a que Pierre Mauri qui réagissait à ce mot. Et finalement, donc face à ça, la démocratie, finalement, oui, alors c'est quoi ? C'est quoi la démocratie ? C'est quoi le libéralisme face à... Donc on est libertaire, on est entre libertaire, totalitaire, on se sent très piégé, parce qu'en même temps... Ce sont des positions totalitaires, au sens où Kierkegaard est totalitaire. C'est des décisions totales. Le mot total était un mot très positif jusqu'à la guerre. Très, très positif, on oublie ça. Bon. Et donc, ça se trouve dans toute la tradition philosophique et théologique, existentialiste, etc. Donc, il y a des retournements. Ce qui était très bon est devenu très mauvais. Il y a des retournements. Alors, je peux dire la même chose pour d'autres exemples. L'autonomie, vous savez que l'autonomie, pour reprendre ça, c'était Jean-Pierre qui a développé ça. Ça a été l'axe. Et maintenant, aujourd'hui, on sent très bien, ici, par exemple, les étudiants qui nous viennent, on a le sentiment que le problème, ce n'est pas de les émanciper, le problème, c'est au contraire de leur redonner assez de tradition, assez de racines pour qu'ils puissent résister, au déluge général ou à la circulation générale. Donc, on est pris à contre-pied sur beaucoup de sujets comme ça. Et la laïcité, pareil. La laïcité a changé de signe. La laïcité était ouverte et est devenue fermée. Il y a des évolutions que vous avez, Jean, je suis reconnu complètement dans toute sa description. Donc vous voyez, je pense que, je le disais, c'est très important pour nous de trouver les nouveaux conflits, de trouver les nouvelles bifurcations, mais nous sommes nous-mêmes très ralentis par le fait que nous n'avons pas encore entièrement déblayé nos propres décombres, si je peux dire. C'est-à-dire, ce à quoi nous avions adhéré et qui a produit des effets pervers, j'allais dire, nous sommes encore dedans aussi. Et il faut un petit peu travailler tout ça sans doute encore, mais c'est...
Écoute, bon, Olivier va râler si je ne donne pas la parole. Olivier, tu as la parole et après on s'arrête quasiment.
Mais parce que
mais elle est brève.
Un des objectifs, si on aborde l'Église et le pouvoir aujourd'hui, c'est pas parce que ça faisait 40 ans, mais parce que le clivage qui n'a pas vraiment été évoqué par Jean-Pierre, et il a été intéressant, même s'il n'a pas parlé d'Église et le pouvoir, c'est quand même que le clivage sur lequel nous avons à nous prononcer, nous, christianisme social aujourd'hui, à l'intérieur même de notre mouvement, et c'est apparu l'année dernière de façon votée, c'est par exemple le débat sur la place du politique par rapport à l'économique, la place de l'anticapitalisme par rapport au capitalisme. Ces choses-là, on ne les a pas abordées, parce qu'elles sont clivages parmi nous. Or, c'était ça l'intérêt, me semble-t-il, d'Église et Pouvoir, c'est qu'il osait nommer un chat et un chat. Il y avait deux positions qui étaient vraiment antagonistes, c'était les réformistes et les révolutionnaires. On n'est plus dans ce clivage-là, mais il est remplacé par quoi? Et c'est là que le pouvoir de contester, tel que tu l'avais montré à l'époque, était intéressant, dans la mesure où ce pouvoir de contester se présente de façon différente, ou même ne veut pas apparaître à l'intérieur du christianisme social tel qu'il est apparu l'année dernière et peut-être cette année.
Enfin, il était peut-être un peu théâtralisé. Alors, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on respecte les horaires à peu près. Donc, il est 13h05. On est